Année 1900, un siècle plein d'espoir, croyance au progrès de la science, promis à l'émancipation de l'homme. Tu étais, avec ton épouse Jeanne, journalier au château de Campagna. Tu avais 55 ans et le travail ne manquait pas. Il y avait les foins, puis les moissons, les soins à donner aux animaux et à l'entretien de la gentilhommière. À cette époque, les alentours de la résidence de la châtelaine Lucienne Sirgan la Campagne étaient animés. De nombreux moissonneurs, des bergers, des femmes s'occupaient. Tout à coup, le brouhaha familier régnant sur les lieux s'interrompit. Tu venais de t'écrouler devant la châtelaine et les ouvriers. Les hommes t'étendirent sous un grand ormeau du parc du château. Quand le médecin de sexe arriva plusieurs heures après, tu avais rendu l'âme. Tes compagnons t'attachèrent sur une échelle pour t'acheminer vers la petite maison, ta petite maison du Cap de la Bielle. Les circonstances de ta mort, je les ai entendues dans la bouche de ta fille Baptistine, Baptistine, qui était ma grand-mère. Selon elle, tu aurais bu de l'eau souillée par la salamagnos, les salamandres. Mentionnée déjà par Pline l'Ancien, cette bestiole fut associée plus tardivement aux bestiaires de l'alchimie. Plus récemment, elle fut définie comme un reptile très venimeux, susceptible d'empoisonner les eaux. Si la salamandre, de nos jours protégée, possède bien en arrière de la tête des glandes sécrétant un venin toxique irritant lors du contact, elle est inoffensive pour l'homme. Ces pauvres salamandres furent sans doute accusés à tort, car il y a fort à parier que ta mort soit due à un infarctus ou à un accident vasculaire cérébral. Ma grand-mère me parlait souvent de toi. Elle évoquait tes longs parcours vers la lointaine Bourgogne et la Bretagne, de ta caisse de curiosité où figuraient des articles et autres fournitures de piété. Ces marchandises, tu te les procurais avant le départ à la maison Souquet de Souex, fournissant les colporteurs du canton d'Oust et de Massat. Ce magasin est devenu le célèbre musée des colporteurs. Je t'imaginais, toi, le montagnard, parcourant les vastes plaines du nord de la France et de la région de Rennes, si l'on en croit un passeport établi à ton nom. Déjà, ton père avait pris le chemin de cet exode saisonnier. Il était accompagné de ton frère Jean, plus âgé, avant que tu ne les suives à ton tour. Tu les décrivais à ta fille, revenant au logis, recrue de fatigue, les habits imprégnés de poussière et de sueur. Il faut les imaginer rassemblés là, dans la pièce unique de leur minuscule maison du Cap de la Bielle, tenant dans leurs mains le maigre pécule en numéraire et les quelques objets de piété qui n'avaient pas été vendus. Un jour, Joseph, tu eus droit à ce fameux passeport de colporteur qui te permettait de quitter Saint-Eunac. Il est aisé d'imaginer ta fierté, ou peut-être tout simplement ta crainte de quitter ton village pour une aventure bien incertaine. Inutile donc de revenir sur les conditions matérielles du voyage, les literies infestées de punaises et de puces, les salles d'auberge maculées de crachats mélangés à la sciure et au mégot. Tu n'étais pas un mendiant, car tu avais un passeport. Mais les gendarmes devaient t'arrêter bien souvent. Il faut imaginer ces voyages où les colporteurs, même en règle avec l'administration, étaient souvent suspectés de vagabondage et étaient accueillis avec hostilité, subissant les brimades des forces de l'ordre. Pour éviter ces écueils, tu revenais toujours sur les mêmes lieux où tu étais connu et apprécié par les habitants. Ainsi, lorsque tu partis, colporteur, une nouvelle vie commença. Car ta famille était pauvre, ils n'avaient pas de terrain, pas de vaches, pas de brebis. Leur seule richesse était leurs bras qui leur permettaient de se louer en tant que journaliers à travers le sud-ouest ou au château de Campagna, dont la châtelaine était issue d'une famille de chevaliers issus directement de la période d'Henri IV. Ton épouse, tu la rencontras dans les plaines de Comminges, alors que vous étiez tous les deux embauchés pour les moissons. Elle aussi venait de Saint-Eunac. Elle était la fille de Luc Jugé, cet homme de caractère à la descendance prolixe, qui fut déposé en catimini à l'Hôtel Dieu de Toulouse par sa grand-mère, que tu ne connus jamais. Il passa son enfance chez une nourrice à Saint-Eunac, avant d'être affecté en tant que journalier. L'été venu, tu partais vers l'Espagne, rejoindre la cohorte de moissonneurs en partance vers les plaines de la CO de Urgel. La veille du départ, tu assistais, tel le marin en partance vers le grand large, à une messe censée vous protéger durant ce long périple. Ma grand-mère me parlait du port de Martera, de la longue descente vers la vallée de Cardos. Je t'imaginais dans des gorges abruptes où grondait le torrent tumultueux d'Ossèse. Le jour du départ, les femmes du village montaient vers le pas de la Guasse, où l'on voit la région du port de Martera se détacher dans la masse des montagnes abruptes. J'imaginais le vent violent venant des cimes et les mauvais temps, la neige, les tempêtes de neige. Ces montagnards, ou ces montagnardes plutôt, disaient que sur ce sentier existait une croix qui vous protégeait des infortunes du long voyage. Et cette croix, elle existe toujours quand on monte vers le port de Martera. Oui, il y avait le vent, la pluie, les neiges tardives, les mille dangers de la montagne qui vous guettaient à chaque instant alors que vous étiez entravé par des sacs et que les bras étaient occupés à porter la faux, ses accessoires et la faucille. Tu partais avec tes compagnons dans un pays parfois hostile, car bien souvent vous étiez mal accueillis. Vous constituiez en fait des gens qui prenaient le travail des Espagnols. Durant cette période, tout le monde s'amusait, profitait de cette vie loin du village. Mais la saison finie, tu revenais avec du vin d'Espagne si capiteux et des produits locaux qui changeaient l'ordinaire de ta famille. De plus, le numéraire gagné sur place rendait la vie plus heureuse. Ta vie, ce fut donc un éternel recommencement. Et puis, il y avait cette photographie prise en compagnie de tes camarades dans les plaines de la CO d'Urgel. Ta fille, donc ma grand-mère Baptistine, considérait cette photo comme une relique. Le photographe de Saint-Girons avait estrait ton visage pour l'accoler à celui de ton épouse qui partagea bien des aventures avec toi et qui prit le chemin du colportage. Ce photographe fit un véritable montage presque parfait pour l'époque. Chaque année, à l'occasion des rameaux, ta fille, ma grand-mère, l'a décorée de quelques rabots de buis béni. Toi, l'ancien de l'armée d'Afrique, ayant tiré un mauvais numéro, qui connut la guerre d'Afrique, donc la guerre franco-prussienne de 1870, qui fut fait prisonnier à Sedan. Comment imaginer le calvaire qui fut le tien dans la presqu'île d'Ige, au milieu des moribonds, des chevaux rendus fous par la faim, chevaux fonçant sur vous à l'aveugle, blessant ou tuant des captifs. Comment ne pas évoquer les épidémies, les scènes d'horreur et de souffrance que tu vécus en tant que prisonnier des Prussiens. Mais tu n'as pas dit tout cela à ta famille, car c'était une plaie vive que tu portais en toi, au tréfonds de ta chair. Joseph du Peyratch, je ne t'ai jamais connu, mais tu as toujours occupé une place à part. Un jour, j'ai émis le souhait d'écrire le récit de ta vie. J'ai contracté avec toi un devoir de mémoire. Je m'y attelle depuis des années par tes recherches en archives et en histoire, par le recoupement d'anciens témoignages de la mémoire orale. Et je n'ai pas encore terminé. Une mention spéciale pour Laurentine du Coumérat, qui fut pour moi une source inépuisable de renseignements. Elle était la fille du dernier cordonnier de Saint-Enac, qui était toujours à l'écoute, de par son métier, de toutes les informations et rumeurs du village. Et toi, ma grand-mère Baptistine, tu ressentais le besoin de me parler de ta vie. Mais à l'époque, le démon de l'adolescence rendit mon oreille inattentive du reloi de l'existence. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.